vote ou crève. Motherfucker, vote ou crève.
Moi, je suis plutôt dans une abstention, oui.
Vous n'avez pas honte ?
Non.
Le premier parti de France,
les Français, c'est les chevelus, les fous, les travestis, les abstentionnistes convaincus.
Qu'est-ce que je suis contente de faire partie des abstentionnistes ?
L'abstention, c'est le contraire du
droit. Ce sont des personnes qui ont cessé de croire et d'espérer.
On va aller voter, il faut que ça ait du sens.
Je suis la majorité.
Bienvenue dans Parti pris.
Parti pris, une plongée dans la France qui ne vote pas.
Le récit de 7 mois de campagne présidentielle à travers les yeux de 3 personnages. Et aujourd'hui, c'est l'introduction.
C'est quoi et c'est qui l'abstention ?
Nous sommes Andréane et Camille et nous avons suivi 3 Français qui ne votent pas. De novembre 2016 à mai 2017, jusqu'au soir du second tour de la présidentielle. Nous avons vécu avec eux les moments clés de la campagne, les affaires, les programmes, les débats et bien sûr les résultats. Nous nous sommes questionnés avec eux sur le vote, sur la politique, sur la citoyenneté. Nous avons exploré les raisons qui les ont incités, eux, jeunes, vieux, célibataires, pères de famille, femmes, hommes, à se détourner de l'isoloir.
Nous vous présentons Tatiana.
J'aimerais tellement être enthousiaste à l'idée d'aller voter parce que je suis quand même quelqu'un qui a toujours été vraiment passionné par la politique, par les idées, par comment on améliore concrètement le quotidien et tout. Et tu te dis, mais putain, j'aimerais tellement pouvoir me passionner pour une campagne et me dire, ouais, ça va changer le monde et essayer de convaincre des gens et tout. Mais non. Juste pas.
Mais aussi Samir.
On se sent tous, mais je pense pour la majorité, dupés depuis quelques années. Et en plus, les débats actuellement ne reflètent pas en fait la majorité. Les débats actuels, ils sont plus ils font peur en fait, les débats actuels. Ils nous font peur. C'est la sécurité, c'est le terrorisme, c'est débats de religion, c'est des choses voilà qui on en a marre. On en a vraiment marre. Il se trouve qu'il y a une ville comme Beverly, on a 50% peut-être de musulmans. C'est vrai que c'est énorme, c'est beaucoup. Mais tu ne peux pas mettre en place un projet national sans prendre en compte un petit peu le local.
Et enfin, Christian.
J'étais en stage, je ne sais plus où, et vient 68. C'était mon premier acte politique. Non, de citoyen, pas politique, de citoyenneté, j'ai voté.
Ils sont bien là, ils sont sympathiques et ils votent pas et c'est pour ça qu'on les a choisis. Mais c'est aussi et surtout parce qu'ils sont différents. Ils n'ont pas le même âge, Christian a 72 ans, Tatiana vient d'en avoir 29 et Samir en a 33. Ils ne vivent pas au même endroit non plus. On est allé chercher Christian dans la jolie ville de Beaune. On a trouvé Tatiana du côté de Belleville à Paris et Samir habite en Seine-Saint-Denis.
Dans ce documentaire sonore, vous n'entendrez pas qu'eux. Il y aura aussi des experts.
Des expertes.
Des savants.
Et des savantes.
Des passants.
Des passantes.
Et des révolutionnaires. Mais aussi d'autres grévistes du vote qui auront tous des choses passionnantes à dire sur notre sujet. Et en parlant de savantes, nous avons rencontré Céline Braconnier il y a quelques mois. Elle est professeure en sciences politiques et spécialiste des comportements électoraux.
Souvent on est dans la caricature et notamment quand on utilise cette expression absolument terrible de premier parti de France, hein, qui, quand on parle des abstentionnistes, hein, qui sous-entend à chaque fois que les abstentionnistes sont tous sur le même modèle et qui forment un mouvement porteur de revendications spécifiques, en commun, etc. Ce qui est évidemment complètement contraire à la réalité.
Du coup, nous, on a pris le parti de retourner le problème. On a pris le parti de monter le son pour entendre ceux et celles qu'on appelle la majorité silencieuse. Nous, on avait envie d'entendre des voix, des parcours, des convictions. Comment on en vient à abandonner les urnes? Comment on reste citoyen quand on ne saisit pas l'opportunité de prendre la parole par la voix du bulletin de vote?
Nos oreilles traînent et ce qu'on entend, c'est voter oui, mais pour qui? Et pourquoi? C'est la galère de la présidentielle. Pour qui on vote? À qui on fait confiance? Alors on se dit, l'abstention, pourquoi pas?
Non, j'ai pas voté aux législatives en 2012 parce que j'étais au Hellfest.
Tatiana Jarzabek a 29 ans. Elle vient de Lorraine et elle présente Le Fil d'Actu. C'est une émission d'actualité sur YouTube. Elle a aussi sa chaîne YouTube à elle toute seule qui s'appelle Tatiana Ventose. Et on est tombé sur ses vidéos au fil de nos recherches et où on a découvert qu'elle s'insurgeait beaucoup contre tout un tas d'injustices et qu'elle revendiquait notamment le fait d'arrêter de voter.
J'étais tellement contente. Il y avait le dimanche, il y avait Megadeth, Slayer et Lynyrd Skynyrd. Et j'étais posée et je me suis dit, qu'est-ce que je suis contente d'être là et de faire partie des abstentionnistes parce que la vraie vie, elle se passe ici en fait, elle se passe pas dans le bureau de vote malheureusement. Et malgré tout ce que j'ai voulu croire toute ma vie, que c'était en votant qu'on pouvait changer les choses et tout, en vrai, en tout cas dans le contexte actuel, ça veut pas dire que voilà, je suis contre le fait de voter en soi, mais dans le contexte actuel, je considère que c'est inutile.
Et alors, comment t'es passé du vote blanc au vote ou pas vote du tout?
Bah en fait, au régional, je suis allée voter blanc parce que j'avais rien d'autre à faire et que c'était au coin de la rue. Mais en vrai, je serais pas allée voter, c'était pareil. Désolée, c'est un peu cash, mais aucune différence. De toute façon, comme le vote blanc est pas comptabilisé, que j'y aille, donc que j'aille passer 10 minutes à faire la queue pour signer un papier et me faire tamponner ma carte d'électeur, ou que je reste chez moi à regarder pour la énième fois un épisode de Game of Thrones, en fait, ça change rien.
En fait, tu aimerais bien, ouais, t'aimerais bien aller voter, mais juste aujourd'hui.
Ouais, il y a rien qui, pour moi, est capable de représenter vraiment ce qu'est le pays, parce que pour ça, il faudrait qu'il y ait des vrais gens en politique. Et tant que tout le milieu politique est sclérosé par des vieux qui n'ont pas bossé depuis 40 ans, ben, on ne pourra rien faire, quoi. Donc autant construire sans les attendre, et voilà.
Donc il n'y a rien qui te fera retrouver le chemin des urnes?
Ben, ça dépend. S'il y a une option viable qui émerge et qui a l'air sympa et qui fait les choses différemment, qui prend en compte tout le monde, si, c'est totalement envisageable. Là, pour 2017, ça a l'air mal barré, mais on sait jamais. Peut-être en 2022.
Avant toute chose, l'abstention, c'est quoi?
L'acte de ne pas voter pour une personne qui va prendre des décisions plus ou moins efficaces pour notre quartier, notre région, nos vaches, nos montagnes, de manière plus large, notre pays. Voilà maintenant ce que l'abstention n'est pas. L'abstention n'est pas le vote blanc, elle n'est pas non plus le vote nul. Un vote nul, c'est quand votre bulletin est annoté, abîmé, raturé. Du coup, il ne peut pas être comptabilisé, désolé.
Le vote blanc, c'est très différent. Pourtant, jusqu'à une loi de 2014, les votes blancs et les votes nuls étaient comptabilisés ensemble. Le vote blanc, c'est l'acte de dire sciemment « je mets un bulletin dans l'urne, mais je refuse de choisir entre les candidats qu'on me propose ». Oula ! Mais ça ressemble drôlement à l'abstention, ça, ma petite dame ! Mais non, dans le vote blanc, eh bien, il y a vote, mon petit monsieur. Les gens se déplacent jusqu'à l'urne, ils vont voter. C'est valider le concept même de l'élection. Ça, on aura le temps d'y revenir dans les prochains épisodes. Et maintenant, on ne peut pas y couper. Un tout petit point statistique. L'abstention à la dernière présidentielle en 2012, c'était 20% en moyenne pour les deux tours, soit un électeur sur cinq. Quasiment le pourcentage obtenu par Marine Le Pen au premier tour de cette élection. Elle avait fait 18%. Voilà, voilà.
Le taux d'abstention change en fonction des élections. Par exemple, les élections législatives de cette même année 2012... l'abstention, c'était 44%. En fait, les élections où les Français votent beaucoup, ce sont les municipales et la présidentielle. Au contraire, les élections pour lesquelles les Français votent peu, ce sont les régionales, les départementales et, au sommet, les européennes. En 2014, pour les dernières élections européennes, on comptait 56% d'abstention. Et le record a été atteint en 2009 avec 59% d'abstention.
Ça y est, c'est fini pour les statistiques.
Alors quand on parle d'abstention, on entend tout de suite « mauvais citoyen ». Désintéressé, fainéant, irresponsable. On a décidé d'adopter un point de vue un peu plus subtil.
Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit vous êtes fautif de pas avoir de
pas voter? Je sais pas, ça ne me vexe, ni ça me morfond, ni ça me complexe. Ça me passe toc.
Désolé. Moi, pour aller voter, il faut que ça ait du sens. Ça veut dire que si je me sens pas représenté, eh ben, il faut arrêter d'aller voter comme ça pour rien. Donc moi, je le dis clairement, que pour voter, il faut que les gens apprennent. Voter, ce n'est pas juste se déplacer le dimanche matin et aller voter comme ça pour une personne parce qu'on lui a dicté son vote. Donc ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, en ce moment, c'est comme ça que ça se passe.
Aujourd'hui, Samir n'est pas un cas isolé en Seine-Saint-Denis puisque c'est le département qui a le moins voté aux dernières élections. Au régional, l'abstention dans le 93 atteignait 63%. À Aubervilliers, plus de 7 électeurs sur 10 ne sont pas allés voter à ce moment-là.
Et on voit qu'il y a beaucoup de campagnes qui disent « oui, on vous force un petit peu à voter, mais sans voir vraiment l'utilité. Si tu votes pas, t'existes pas, ouais, mais tes débats, tes projets que tu comptes, donc c'est comme si t'existais pas. » Ben, je dis « malheureusement, je suis désolé. » Donc actuellement, celui qui s'abstient et l'abstentionniste, c'est le premier parti de France. Moi, je le prends comme ça. Donc je fais partie de tous ceux Je fais partie de tous ceux qui ne votent pas. Et on est beaucoup. Et on est nombreux. Donc si on est nombreux, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, en quelque sorte, pour moi, aller voter maintenant, actuellement, vu que personne ne me représente, c'est accepter. C'est accepter ces candidats. Donc, je ne vote pas, tout simplement parce que je n'accepte pas, pour l'instant, les représentants.
Samir Mezat a 33 ans. Il est né au Maroc et il habite Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, depuis ses 10 ans. C'est un jeune homme athlétique, aux traits fins et doux, qui a été animateur de centre de loisirs pour les jeunes Alberti-Villariens. Ouais. Oui, alors ça, c'est le nom des habitants d'Aubervilliers. C'est Samir qui nous l'a appris. Moi, je suis hyper contente.
Et maintenant, Samir enseigne à des collégiens en section SECPA. La SECPA, c'est une classe où on accueille des jeunes en grande difficulté scolaire. Quand on a rencontré Samir, c'était un samedi matin de début d'hiver à Aubervilliers. On s'est tout de suite rendu compte que son truc, c'était la transmission du savoir.
Pour quelqu'un comme vous qui est un peu un exemple pour certains jeunes. Enfin, vous êtes prof, vous êtes enseignant, donc il y a beaucoup de jeunes qui doivent vous admirer ou même vous prendre comme modèle. En gros, vous essayez de leur apprendre à être citoyen et la politique. Du coup, est-ce que vous n'avez pas l'impression de trahir un peu ce que vous leur apprenez en étant abstentionniste ?
C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je suis enseignant. J'essaye depuis un petit bout de temps de les faire... De les faire engager un petit peu dans, en tant que citoyen. Donc j'essaie de les faire participer, qu'ils comprennent le rôle d'un citoyen. Et la notion de citoyenneté, elle prend une part très, très importante, surtout actuellement avec tout ce qui se passe. Mais malheureusement, ce que j'essaie de transmettre à mes élèves et ce que j'essaie de faire, c'est que être citoyen n'est pas seulement aller voter. Être citoyen, pour ma part, c'est comme elle le définissait d'ailleurs, je le disais à Ségolène Royal à l'époque, elle le disait quand elle était ministre de l'Éducation nationale, c'est le vivre ensemble. Voilà. Donc être citoyen, c'est la capacité d'une personne à vivre ensemble. Moi, je trouve que je suis capable de vivre avec les autres. Je vis avec les autres, je m'implique au niveau associatif, donc j'essaye d'améliorer les choses à mon niveau. Et il m'est même arrivé de me présenter aux élections, de demander à voter pour un projet, mais là cette fois, est-ce que vous vous sentez représenté ou pas ? Donc allez-y voter si c'est le cas. Donc ils ont du sens. Donc j'essaye d'avoir un réel travail de pédagogie à ce niveau-là. Mon objectif, ce n'est pas qu'ils n'aillent pas voter. C'est pas ce que je dis à mes élèves. C'est d'aller voter. Il faut que ça fasse sens pour eux. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent aller voter. Et pour comprendre pourquoi il faut aller voter, il faut connaître un petit peu les tenants et les aboutissants. Ça veut dire qu'il faut savoir quel projet est défendu par telle ou telle personne et dans quel projet vous allez vous situer. C'est compliqué pour des élèves. C'est très compliqué. Donc, ils ont le temps. Ils vont avoir quand ils ont 18 ans. Mais en tout cas, il est important pour moi de mettre en place ces fondations et de ne pas leur dire d'aller voter comme ça pour voter, pour élire une personne qui nous représente. On le fait de manière... Ben voilà. J'essaie de vraiment de le transposer de manière dans les situations déléguées. Donc on va voter pour tel ou tel. On ne vote pas pour cette personne parce qu'on l'aime bien. On vote pour cette personne, pour ce qui est capable de nous apporter. Donc ça, j'insiste beaucoup. On me dit que si tu veux changer les choses, il faut intégrer une liste. Donc c'est ce qu'on m'a dit, moi, au départ, en octobre 2013. Donc je fais le tour un petit peu de toutes les listes. Mais mon but premier, c'est de partir pour un projet.
Vous aviez quoi comme idée phare, par exemple ?
Idée phare... l'idée phare... En fait, nous, il y avait plusieurs idées. Donc on va... Je vais en énumérer 2-3. Nous, on était... Voilà. Problème dans la ville d'Aubervilliers, c'est qu'il y avait un manque vraiment de transparence à tous les niveaux. Donc nous, voilà, l'objectif, c'était qu'il y ait de la transparence. Voilà. C'est qu'il y ait des... Il fallait qu'on comprenne ce qui se passe dans la ville, ce qui se fait. On avait du mal un petit peu à voir tout ça. Donc ça, c'était... Voilà. On voulait vraiment plus de transparence. Deuxième, on voulait vraiment qu'il y ait une certaine égalité, une équité à tout... Voilà, moi j'étais dans le domaine de l'éducation, donc les problèmes que j'ai pu apercevoir en tant qu'enseignant, j'ai voulu les remédier. J'avais une qui était pour moi très simple, voilà, comme proposition, c'était vraiment cantine scolaire. Et d'ailleurs, 2 ans après, on entendait partout parler au niveau national. Et on s'est présenté aux élections mars 2014. Vous connaissez le président qui était Nicolas Sarkozy à cette époque, 2013. Non, c'était François Hollande, 2012. Bon, on va dire les grands partis, je connaissais plus ou moins, donc je ne connaissais pas dans les détails. Donc je ne connaissais pas en fait le système politique français. Au niveau local, je connaissais, oui, notre maire, qui était là en 2013. Je savais que c'était le Parti socialiste qui était en majorité, c'était Jacques Salvatore. Bien avant lui, je me souviens plus, je sais que c'était le Parti communiste. Donc bien avant lui, le nom c'était Pascal Baudet qui était repassé par la suite, mais vraiment vaguement. J'étais très très novice, je ne connaissais pas les rôles des maires adjoints, d'un conseiller municipal réellement représenté. En fait, je ne connaissais vraiment pas le fonctionnement. Il y avait un représentant dans un quartier qui venait nous voir de temps en temps, il faut voter telle ou telle personne. Et nous, on suivait comme ça, mais c'est pas pour lui faire plaisir. Donc on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Donc il venait, on lui faisait confiance, tiens, vote, on votait. Mais en réalité, lui, il y avait déjà des contreparties qui étaient déjà prévues. On n'est pas baigné dans de la politique. Donc on connaît pas grand-chose, en fait. Et c'est parce qu'on connaît pas grand-chose, on va dire qu'on peut se permettre de faire plein de choses à la municipalité sans que personne ne comprenne, en fait, ce qui se passe.
Vous vous souvenez de Céline Braconnier ?
C'est le moment de vous préciser qu'elle a écrit un livre entier sur notre sujet, « La démocratie de l'abstention », un essai sur les origines de la démobilisation électorale en milieu populaire.
Ce qui est nouveau et qui explique que les abstentionnistes d'aujourd'hui constituent une catégorie beaucoup plus diversifiée encore que celle d'autrefois, c'est d'une part l'effet de génération. On pense qu'aujourd'hui, les jeunes votent moins que ceux qui ont 50 ans, pas seulement parce qu'ils sont plus jeunes, mais aussi parce qu'ils sont moins porteurs d'un sentiment que voter est un devoir que les générations précédentes. Autrement dit, ils culpabilisent beaucoup moins de s'abstenir et il n'est pas du tout sûr qu'en vieillissant, ils culpabilisent davantage. Donc, on n'est pas du tout sûr que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, quand ils auront 50 ans, voteront autant que ceux qui ont 50 ans aujourd'hui. Et donc là, on a du souci à se faire au niveau de la participation. Les catholiques français un peu âgés vous disent on va voter comme on va à la messe le dimanche, il y a un côté devoir qui est très très prégnant.
Ça, c'est pas le cas de Christian.
Le slogan majeur de mai 68, élection piège à con. Voilà.
Place au dernier de nos personnages et pas des moindres, Christian Richard.
Pour moi, c'est toujours l'actualité. L'exercice du pouvoir, c'est ça qui est pas terrible, parce que tu accèdes à des choses qui te pervertissent dans ton désir de changer les trucs, améliorer, réformer, progresser. Et puis rapidement, ça se perd dans un truc que bien des philosophes depuis les Grecs ont parfaitement analysé. Les Grecs, c'était les premiers avec la démocratie grecque. Je ne sais pas si tu te souviens, si tu as lu un peu Socrate. C'était les Grecs qui se gouvernaient eux-mêmes dans l'agora. Donc ça, on l'a perdu. Et aujourd'hui, si tu ne fais pas vite, et très agressivement, je dirais presque, un peu comme un dictateur, Mitterrand, les 2 premières années où il a agi, il a fait des trucs comme ça. Il a nationalisé à mort. Toutes les banques, les grosses boîtes, les gros trucs industriels, si tu veux, sont passés dans le domaine public. C'était magnifique. On n'a jamais gagné autant de fric. Les boîtes n'ont jamais autant bossé. Ça a duré 5 ans, le temps qu'arrivé à la fin de son exercice, où il était passé à droite, parce que son entourage, le goût du pouvoir, la perversion du pouvoir. Pour moi, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que je suis anarchiste. Anarchiste dans le sens positif du terme. Et je suis communiste. Hétérodoxe.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire pas très conformiste comme communiste d'origine. Je suis pas un extraterrestre. Je suis la majorité. Je te signale que entre les non-inscrits, comme moi, les inscrits ne votant pas, ou votant blanc, ou votant nul. À ton avis, Hollande, il y a 4 ans, il a été élu par quelle proportion des citoyens français? Quelle proportion exacte? En âge de voter, hein, je ne parle pas des bébés. En âge de voter, 28%.
Comment ça, on peut être abstentionniste et s'intéresser à la politique?
Je crois que c'est au moment, quand j'étais en terminale, où il y a eu le vote sur la Constitution européenne, et que, en fait, j'avais que 17 ans, donc je ne pouvais pas voter à ce moment-là. Et il y avait plein de gens dans ma classe qui allaient voter pour la Constitution européenne. Et il y a eu tellement, on a fait tellement de débats. J'avais le texte de loi sur lequel je prenais des notes, je soulignais les trucs qui n'allaient pas, les trucs qui allaient faire que l'Europe allait aller encore pire et tout. Et je ramenais ça pour débattre avec mes camarades de classe, sauf que eux, au final, avaient ce pouvoir de voter et moi pas. Et ça m'a tellement frustrée. Donc ouais, il y a eu ça, il y a eu 2005, un engagement, j'ai fait ce que j'ai pu en fait dans ma classe quoi, et après je suis... Ouais, bah c'est juste après en fait, j'ai eu mon bac, je suis partie en prépa et là je me suis vraiment engagée.
Alors que revoilà Céline Braconnier.
Alors il y a un autre élément qui est nouveau et qui explique que les abstentionnistes d'aujourd'hui soient donc plus diversifiés encore qu'hier, c'est que ce qu'on tend à percevoir, c'est une diffusion du désenchantement et du discours sceptique à l'égard de la pratique électorale, notamment dans les milieux diplômés. Voilà. Qu'il y ait toujours eu un scepticisme vis-à-vis du vote et une tendance à moins voter dans les milieux populaires, c'est établi, c'est de longue durée. Que ce discours désenchanté et sceptique tente à s'entendre dans des milieux où il est beaucoup plus habituel de voter constamment, ça, c'est plus nouveau.
Parti pris sera une polyphonie, un ensemble de voix qu'on croyait inaudibles alors qu'elles étaient toujours là, pas loin.
Alors, plongez avec nous pour une exploration de 6 mois au cœur de l'un des plus grands mystères de la démocratie moderne.
Rendez-vous dans l'épisode 2 où vous revivrez les 2 tours de l'élection présidentielle avec nos personnages. Vous les aimez déjà, on en est sûr.
Merci d'avoir écouté Parti pris. Parti pris est une création d'Andréane Mellard et Camille Romano, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée par Lauren Bess, mixée par Zaki Halal et coordonnée par Laura Cuissard. Parti pris est une production Nouvelles Écoutes.
Vous pouvez retrouver Parti pris sur Twitter, on s'appelle Parti pris NE, et sur Instagram sous le nom de Parti pris Podcast. Vous pouvez aussi aller vous promener sur le site de nouvellesécoutes.fr pour connaître toutes nos émissions et vous inscrire à la newsletter. En fait, s'abonner à l'émission sur les plateformes de podcast type iTunes ou SoundCloud, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous les recevrez direct sur votre portable et vous n'avez rien à faire. C'est génial. Bon bah...
Salut.
Et merci hein.